Le monde a connu quantité d'empires qui, au sommet de leur gloire, semblaient invulnérables. Et pourtant, il ne reste d'eux que leur histoire dans les pages jaunies de vieux livres, des images et quelques objets d'art. Je commence à lire le chapitre 13 du livre d'Osée. Dès qu'Éphraïm parlait, c'était la terreur. Il s'est élevé en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal. C'est pourquoi il est mort. Verset 1. Ici commence la dernière menace contre Israël Nord et elle est particulièrement énergique. Comme dans tout le livre, Éphraïm désigne le royaume des 10 tribus. Conformément à la bénédiction de Jacob, la tribu d'Éphraïm devint très puissante et donna des chefs tels que Josué et Jéroboam Ier, autour de qui se créa Israël Nord. Devenue indépendante de Juda, cette nation suivit dans l'idolâtrie son premier roi. C'est lui qui a établi le faux culte des veaux d'or, ce qui d'un point de vue moral et spirituel a détruit la nation. Vis-à-vis de Dieu, elle était comme morte. Je continue. Et maintenant, voilà ces gens qui pêchent davantage, faisant de leur argent des idoles fondues, des statues ciselées avec habileté, ouvrages d'artisans que tout cela, et pourtant ils leur parlent, et les sacrificateurs d'hommes font des baisers aux veaux. Verset 2. Les idoles étaient le fruit de l'esprit créatif et du travail d'un artisan, et pourtant les adorateurs se bousculaient pour porter la main à la bouche devant elles en signe d'adoration. Les sacrificateurs d'hommes sont les adorateurs de Baal. Comme le mot pour homme est Adam, Osée ne parle pas ici de sacrifice d'enfants. À cette époque, ce crime se pratiquait en l'honneur de l'idole Moloch, aussi bien en Israël Nord que dans le royaume de Juda. Les sacrificateurs d'hommes font des baisers aux veaux, pourraient désigner les prêtres qui, dans les environs de Sichem, assassinaient les voyageurs qui allaient à Bethel pour adorer les faux dieux, dont le fameux veau d'or. Cependant, en hébreu, cette phrase peut aussi vouloir dire « ceux qui parmi les hommes sacrifient font des baisers aux veaux ». Dans ce cas, Osée soulignerait l'absurdité de cette conduite. Aujourd'hui, certaines personnes religieuses croient que d'embrasser certaines images, statues ou un lieu sacré est un acte d'adoration envers Dieu. Mais Jésus a enseigné que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, c'est-à-dire par sa façon de conduire ses affaires et de se comporter dans sa famille, en société, dans la rue et partout ailleurs. Il faut aussi savoir qu'une attitude pieuse à l'Église n'a pas de mérite particulier envers Dieu, car ce qui compte pour lui, c'est ma vie de tous les jours. Je continue le texte. C'est pourquoi ils seront semblables aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui bientôt se dissipe, à un fétu de paille emporté loin de l'air en tourbillon et à de la fumée sortant d'une ouverture. Verset 3. Ces quatre éléments qui disparaissent rapidement évoquent la facilité, la rapidité avec laquelle les Israélites du Nord vont perdre leur identité nationale et leur autonomie politique avant d'être déportés en Assyrie. Je continue. « Pourtant, moi, l'Éternel, je suis ton Dieu depuis l'Égypte, et en dehors de moi, tu ne connais pas d'autre Dieu, et il n'y a pas de sauveur. » Verset 4. L'Éternel déclare ici, d'une part, qu'il est le Dieu d'Israël, et qu'en dehors de lui, il n'existe ni Dieu ni sauveur, et d'autre part, qu'il n'a jamais cessé d'être fidèle aux Israélites, alors qu'eux se sont livrés à l'idolâtrie la plus grotesque. La pensée moderne a épousé le syncrétisme religieux sans trop réfléchir. Les gens croient que tous les dieux se valent et qu'il suffit de faire le bien autour de soi et d'être fidèle à soi-même pour accéder au royaume des cieux, s'il y en a un. Mais Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Et l'apôtre Pierre a déclaré « C'est en Jésus seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Je continue le texte. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. » Verset 5. Cette connaissance intime entre l'Éternel et le peuple hébreu a eu lieu au mont Sinaï quand la loi lui fut donnée, ainsi que pendant les 40 années de pérégrination dans le désert, où Dieu a prouvé sa fidélité en pourvoyant à tous les besoins de son peuple. Je continue. Lorsqu'ils sont arrivés dans de gras pâturages, ils se sont rassasiés. Quand ils furent repus, l'orgueil les a saisis et ils m'ont oublié. Verset 6. Le prophète Osée a déjà noté que la prospérité fut l'une des causes de l'infidélité du peuple. Par exemple, il a dit « Plus Israël a eu de fruits, plus il a édifié d'autels, plus sa terre était belle, plus il embellissait les stèles pour ses divinités. » Je continue le texte. « Mais je serai pour eux semblable à un lion, et comme un léopard sur leur chemin, je serai aux aguets. » Verset 7. Comme s'ils étaient alliés, l'Éternel sert de guetteur pour les Assyriens. Quand Osée écrit « Je serai aux aguets », il fait un jeu de mots car le verbe hébreu est homonyme au nom Assyrie. Les deux se prononcent « Ashur ». Je continue. « Et comme une ours privée de ses petits, je les attaquerai et leur déchirerai l'enveloppe du cœur. Je les dévorerai là comme une lionne. » Ils seront mis en pièces par les bêtes sauvages. Verset 8. Dur, le berger d'Israël devient son prédateur. La scène décrite est brutale, mais l'invasion assyrienne le sera aussi. Curieusement, les trois bêtes sauvages citées par Osée apparaissent dans la vision du prophète Daniel pour représenter un empire. Le lion, c'est Babylone, le léopard, la Grèce, et l'ours, la Perse. Je continue le texte. « Ce qui t'a perdu, ô Israël, c'est d'être contre moi, contre celui qui est ton secours. » Verset 9. « Depuis que le royaume des 10 tribus a rejeté l'Éternel, il s'est privé de son seul soutien. Pareillement, quand je me sens perdu ou qu'une tuile me tombe sur la tête, je dois considérer ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive parce que je suis souvent mon pire ennemi. » Cela dit, il y a des malheurs qui fondent sur nous sans aucune raison, sinon que nous sommes une race maudite depuis ses origines. Mais c'est aussi pour cette raison que Jésus est venu pour nous racheter de cette malédiction. Je continue. Où est-il à présent votre roi? Où est-il? Qu'il vienne vous sauver dans toutes vos cités? Où sont-ils à présent vos magistrats auxquels vous demandiez « Donnez-nous donc un roi et des ministres !»« Oui, j'ai dit, je te donnerai un roi dans ma colère, je te le reprendrai dans mon indignation. » Versets 10 et 11. Ce passage fait penser à la réaction de l'Éternel quand les responsables des tribus d'Israël ont voulu un roi. À cette occasion, Dieu a dit au juge Samuel « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Puis plus tard, les 10 tribus se sont révoltées contre Dieu et ont voulu leur propre roi. Mais à quoi bon? Les changements de dynastie se faisaient dans un bain de sang. Il y a eu 21 rois et ils furent tous idolâtres et le dernier, Osée, a fini en Assyrie. Je continue. Le crime d'Éphraïm est bien enregistré et son péché est bien noté. Verset 12. Toutes les fautes d'Israël Nord sont documentées et mises de côté jusqu'au jour du règlement de compte. Ce document témoignera contre lui. Je ne me sens pas trop concerné par les péchés d'Israël, mais par les miens, certes oui. Parce que tout ce que j'ai fait ou pensé est soigneusement catalogué dans un livre. Or, on sait que des livres seront ouverts et serviront à juger tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus comme sauveur. Pour les croyants, par contre, toutes leurs fautes ont été placées sur Jésus quand il a été crucifié, et son sang les a effacées. Je continue le texte. Les douleurs de l'enfantement surviennent pour lui, mais c'est un enfant stupide. Il est à terme et ne quitte pas le sein maternel. Verset 13. Israël Nord est comparé à un bébé qui refuserait de naître, c'est-à-dire de se convertir en revenant à l'Éternel. Ce refus est stupide parce qu'il conduit à la mort. Les douleurs de l'enfantement sont les invasions assyriennes qui eurent lieu sous le roi Menahem et ses successeurs, ainsi que les lourdes tributs qu'ils durent verser. C'est d'ailleurs le refus de payer ce tribut qui a mis le feu aux poudres et déclenché l'invasion du royaume des 10 tribus. Nous arrivons à un verset difficile. Devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre et de la mort? Devrais-je les sauver? Verset 14. Ces deux questions que l'Éternel se pose sous-entendent non comme réponse. Dieu ne va pas épargner les Israélites. Le verset continue. Ô mort, où sont tes pestes? Sépulcre, où est ton pouvoir destructeur? Je ne peux plus les avoir en pitié. C'est comme si Dieu disait « Quoi? Les Israélites voudraient que ni la mort ni le sépulcre n'aient de puissance sur eux. Non, je ne peux plus les avoir en pitié. » Ces deux questions ont été reprises par l'apôtre Paul dans son discours sur la résurrection des croyants. Ce que Dieu n'a pas pu faire pour les Israélites à cause de leur révolte contre lui, il le fera pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Je finis le chapitre 13. Éphraïm a beau prospérer parmi ses frères, le vent d'Orient viendra, un vent de l'Éternel montera du désert, et il desséchera la source d'Éphraïm, et sa fontaine tarira. L'ennemi pillera le trésor où sont amassés tous les objets précieux. Verset 15. Éphraïm, qui signifie fécond, fertile, fruit, fait assonance avec prospérer. C'est comme si Osée disait « Prospère, a beau prospérer, le vent d'Orient viendra », c'est-à-dire les Assyriens qui envahirent Israël Nord sous le règne de Pekah et qui revinrent 9 ans plus tard pour finir le travail et prendre Samarie, capitale du royaume depuis que le roi Omri avait acheté la montagne sur laquelle elle fut bâtie. Nous arrivons au chapitre 14, le dernier du livre d'Osée. Le premier verset devrait plutôt faire partie du précédent chapitre car il étale brièvement et brutalement les faits, les reproches et châtiments qu'Osée a exposés tout au long de sa prophétie. Je commence à le lire. Samarie payera pour ses crimes parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ses habitants mourront sous les coups de l'épée, ses bébés seront écrasés et l'on fendra le ventre de ses femmes enceintes. Verset 1. Ce langage particulièrement violent correspond à ce qui est écrit dans les malédictions du traité d'alliance, c'est-à-dire de la loi de Moïse. Je continue. Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Verset 2. À partir d'ici, le prophète donne libre cours aux promesses de restauration du peuple qui depuis longtemps bouillonne dans son cœur. Cependant, il parle posément et n'est jamais exubérant. Son discours est celui d'un homme qui est confiant car il sait qu'un jour tout finira bien pour Israël. Je continue. Apportez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui « Pardonne toute faute, accepte qu'en retour » nous t'offrions en sacrifice, en guise de taureau, l'hommage de nos lèvres. Verset 3. Osée exhorte le peuple à la repentance, à reconnaître ses péchés. Littéralement, il dit, nous t'offrirons en retour pour taureau nos lèvres. Habituellement, c'est un sacrifice qu'on apporte à l'autel, mais ici, l'offrande se compose de paroles, d'humiliation et de reconnaissance. Dieu dicte d'avance ce que les Israélites devront dire d'un cœur sincère. Je continue. Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains « Toi, tu es notre Dieu, car c'est toi, Éternel, qui prends pitié de l'orphelin. » Verset 4. Dans les Écritures, l'orphelin symbolise celui qui est faible et sans défense. Ici, il représente Israël mis en déroute par les armées assyriennes. Osée prophétise l'action de grâce que dans l'avenir, le nouvel Israël, pardonné et purifié, rendra à Dieu. Le peuple élu renoncera définitivement à tous ses anciens démons qui lui servaient d'appui, comme la Syrie moyennant finance et sa propre force militaire représentée par les chevaux. Ceux-ci étaient importés d'Égypte, un autre pays sur lequel Israël s'appuyait. Mais la plus grande faute d'Israël a été de compter sur les idoles, de leur offrir un culte et surtout Baal, le dieu de l'orage et de la fertilité. Au XXIe siècle, l'adoration des objets et des statues est encore très répandue et même en expansion. Durant la crise qui a commencé en 2008, pour vendre leur maison, certains enterraient dans leur jardin une statuette représentant Saint-Joseph. Dans ce qui se vend toujours bien, on a les amulettes fétiches, dont la patte de lapin. Très pratiques, ils sont à la fois porte-clés et porte-bonheur et vous protègent en voiture. Pour davantage de sécurité, vous pouvez aussi clouer un fer à cheval sur la porte de la grange. Et puis, il y a les reliques de ceux qu'on appelle saints. Bref, la liste est longue. Je continue le texte. « Moi, je les guérirai de leur apostasie. Je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. » Verset 5. L'infidélité d'Israël Nord a été décrite dans les trois premiers chapitres du livre sous les traits d'une femme qui avait une fâcheuse tendance à l'adultère. Osée l'a épousée par devoir sur l'ordre de l'Éternel, tout en sachant ce qui l'attendait. Par cette union, il se comportait comme le Seigneur envers son peuple infidèle. Mais le jour vient où l'Éternel pardonnera à Israël et le guérira de ses mauvais penchants et surtout de l'idolâtrie qui est une maladie de l'âme. Je continue. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée. Il fleurira comme le lys et s'enracinera comme les cèdres du Liban. Verset 6. Par opposition au vent d'Orient qui dessèche tout sur son passage, la rosée a une action bienfaisante sur les plantes. Elle sert à illustrer la bénédiction qui vient de l'Éternel, la véritable source de la fertilité et de la prospérité. Le lys, qui symbolise la pureté, remplacera les mœurs corrompues d'Israël. Le cèdre était un arbre connu et prisé pour ses racines profondes qui lui permettaient de résister aux sécheresses et aux vents violents. En outre, il possédait une végétation luxuriante et dégageait une odeur odoriférante. Il représente la puissance, la splendeur et la prospérité. Je continue. Ses rameaux s'étendront au loin et il aura la majesté de l'olivier et son parfum sera semblable à celui du Liban. Ceux qui viendront habiter à son ombre cultiveront à nouveau le blé et fleuriront comme la vigne et ils auront la renommée des grands vins du Liban. Versets 7 et 8. La gloire du nouvel Israël rayonnera dans le monde entier où il sera une source de bénédiction pour chacun de ses membres et pour les nations. Cette scène correspond à l'ère du millénium quand Jésus-Christ règnera sur toute la terre à partir de Jérusalem. Dans ce chapitre, le Liban est mentionné trois fois parce qu'il sert de point de comparaison aux bénédictions que Dieu réserve à son peuple. En effet, les splendeurs de cette chaîne de montagnes qui au nord délimite la terre promise symbolisent la magnificence du royaume de Dieu en Israël. On se rend compte ici que le prophète vivait bien dans le royaume du Nord et aimait sa patrie. Je continue le texte. Éphraïm dira, « Qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Moi, je l'exaucerai, je veillerai sur lui. » Verset 9. Les deux verbes « je l'exaucerai » et « je veillerai » font respectivement assonance avec les noms des déesses Anat et Ashéra, des compagnes de l'idole Baal. Les jeux de mots sont légions dans ce livre. Le verbe hébreu traduit par « je veillerai sur lui », sous-entendu pour lui faire du bien, a précédemment été rendu par « je serai aux aguets », quand menaçant, Dieu a dit « je serai pour eux semblable à un lion et comme un léopard sur leur chemin, je serai aux aguets ». L'idolâtrie d'Israël Nord a été dénoncée par Osée de mille et une manières. Son cas était tellement désespéré que le prophète a même dit « le peuple d'Éphraïm s'est lié aux idoles, qu'il aille son chemin ». Maintenant par contre, c'est-à-dire à la fin des temps, le nouvel Israël dira « qu'ai-je encore à faire des idoles ? Dieu me suffit amplement ». Je continue le texte. « Je suis comme un cyprès qui reste toujours vert. Éphraïm portera du fruit, et c'est moi qui l'aurai produit. Verset 9. En hébreu, fruit fait assonance avec Éphraïm. Dans cette scène, l'Éternel se présente d'une part comme un arbre vivace qui ne perd jamais sa verdure, et d'autre part comme le véritable Dieu de la fécondité par opposition à Baal. Je finis le chapitre 14 et le livre d'Osée. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître? Les voies que l'Éternel prescrit sont droites, les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles. Verset 10. Le prophète lance ici un défi quand il demande « Qui peut comprendre ces paroles ?» La réponse que chacun donne à cette question dépend des dispositions de son cœur. Les quelques Israélites du Nord justes comprendront et en tireront profit. Soit ils iront se réfugier en Juda, soit ils continueront à invoquer l'Éternel en terre d'exil. Et comme les empires assyriens puis babyloniens se confondirent à l'empire perse, il n'est pas exclu que des descendants pieux des Israélites du Nord exilés aient fait partie de la colonie juive dirigée par Zorobabel qui retourna en terre promise. Pour les rebelles, par contre, cette prophétie ne fait qu'accroître leur culpabilité et rendre leur jugement plus sévère. Quant à vous, si vous avez suivi ce livre jusqu'au bout, vous faites certainement partie des justes.